Maintenant, on écoute.
Ce qu'on a vécu, ça va être violent à écouter, mais la moindre des choses, c'est de l'écouter.
Le silence n'a jamais été sans violence.
Sors du silence.
Le silence est une immense violence.
Soyez prêts à écouter, même si ça fait peur, soyez prêts. On l'a vécu, vous pouvez l'entendre.
Faut que ça s'arrête.
Avertissement. Cette émission aborde le thème des violences sexistes et sexuelles.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis en compagnie d'Aline Lafoy et Inès De Winter. On co-réalise cette émission. Maintenant, on écoute depuis fin décembre.
Fin décembre, ouais, c'est ça.
Exactement. Et on est ravis de présenter. Maintenant, on écoute en direct du Chaudron pour les 15 ans de Radio Campus. On commence tout de suite, je pense, avec une petite question sur l'importance de cette émission, que ce soit au sein de Radio Campus Amiens ou même au sein de toute structure. Pour vous, pourquoi est-ce que c'est important de parler des violences sexistes et sexuelles ?
Déjà, c'est surtout...
Je crois qu'on a un petit souci de petit micro. On ne t'entend pas, Aline.
Alors là, c'est bon, je pense.
C'est bon.
Déjà, c'est surtout né d'un engagement aussi dans la radio, d'un engagement aussi personnel à chacun et chacune pour le coup. Et on voulait développer ce sujet sur notre radio. Et c'est un sujet qui est venu sur la table, en fait. À chaque fois qu'on fait des reportages ou des choses comme ça, bah, c'est un sujet qui vient sur la table. Et en faire une émission, et une émission longue, c'était aussi tout de suite notre
oui, c'était notre volonté.
Notre volonté, c'est ça, de laisser le temps aux spécialistes, aux témoins de parler. C'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur pour le coup.
C'est ça, je rebondis, mais en fait, c'était aussi une initiative personnelle. Et comme tu le disais, Aline, quelque chose qui revenait souvent quand on en parlait, et c'est aussi un sujet d'actualité qui a toujours existé, mais c'est vrai qu'on en parle davantage aujourd'hui, et c'est quelque chose de très positif, je pense. Et l'idée, c'était aussi dans cette continuité d'ouvrir l'espace pour encourager les victimes à s'exprimer, bah, c'est vraiment de leur laisser l'espace aussi pour les écouter, et avoir une écoute active et leur donner des réponses satisfaisantes, en mode on vous a entendu, on vous entend, on vous écoute. Et donc c'était toute l'idée derrière ce projet.
Sachant que là, d'ailleurs, on est à 3 émissions réalisées de Maintenant on écoute depuis février. Et Aline, tu as réalisé la première émission.
Exactement.
Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu comment est-ce que tu as abordé ce sujet ? Qui a été ta première interlocutrice et t'a donné l'idée de ce premier épisode ?
Alors, c'est venu pendant un reportage. En fait, j'étais partie pour faire une interview pendant un concours d'éloquence. Et j'ai rencontré une jeune lycéenne qui s'appelle Anaïs. Et elle a gagné ce concours d'éloquence. Et ce concours-là portait sur la violence intrafamiliale. Du coup, elle a participé. Elle a écrit plusieurs discours, dont ce dernier qui l'a fait, qui l'a fait gagner, en fait, finalement. Et il y a eu... Ils étaient peut-être une dizaine de participants et participantes entre le lycée et l'université. Il y avait plusieurs catégories, etc. Et elle a fait son discours et c'était un peu... on était un peu tous médusés. Je ne sais pas comment dire ça mieux, mais c'était...
Oui, sans mots.
Oui, exactement. Et du coup, j'ai été la voir après cette interview. Je lui ai dit, j'aimerais bien te donner la parole. Je ne sais pas encore quand, comment. Et je suis rentrée à la rédaction. J'ai dit, hey, j'ai une super idée. On va laisser la parole à cette jeune fille, qu'elle nous fasse ce discours-là, qu'elle le récite, en fait, finalement. Et après, j'ai eu l'occasion de discuter longuement avec elle. Elle a accepté de rester avec moi et de parler au micro de son expérience, des violences qu'elle a subies.
Alors là, on va présenter 3 extraits de nos émissions. Et d'ailleurs, le premier extrait donc, concerne cette première émission. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce qu'on va diffuser tout à l'heure ?
J'ai choisi en fait parce que j'ai choisi cet extrait parce que ça représente l'épisode pour moi, c'est-à-dire que c'est Lynn Rodien qui est de l'association Agena.
La violence intrafamiliale, elle. La violence intrafamiliale. Elle est,
qui explique, bah, vous avez entendu Lynn Rodian, voilà, justement. Elle explique en fait ce que c'est la violence intrafamiliale. Elle est très pédagogue, elle explique tout bien, etc., dans tous les détails. Et j'ai fini cet extrait-là par le témoignage en fait, d'Anaïs, qui apporte sa parole d'ado, qui un peu exprime son point de vue. Et c'était le but de ce premier épisode, c'était d'apporter un point de vue d'ado pour le coup.
Intrafamiliale, elle regroupe toutes les violences qui se passent au sein de la cellule familiale. Voilà, la violence conjugale, c'est quelque chose qui est dans la conjugalité. Mais du coup, souvent on dit violence conjugale, violence intrafamiliale, c'est lié en fait. Voilà. Déjà, enfin, je voudrais juste revenir sur cette notion-là. C'est vrai que les enfants sont victimes des violences intrafamiliales et des violences conjugales. Hein, on dit violence conjugale, c'est une violence dans la conjugalité, dans le couple.
C'est vrai.
Mais quand même, très souvent, il y a des enfants, pas très loin. Voire même au centre des échanges. Et dans les violences intrafamiliales, forcément, les enfants sont là, donc ils sont vraiment victimes. Et on a mis quand même très longtemps à prendre conscience que les enfants, il fallait les protéger des violences conjugales. C'est dehors du rang, d'ailleurs, voilà, hein, qui fait partie des grands défenseurs des droits de ces enfants. Et même si ça fait très longtemps que dans les structures spécialisées, et dans l'aide sociale à l'enfance, il y a des tentatives de protection. Jusqu'à présent, l'enfant, il était quand même un peu mis de côté. On disait, c'est une histoire d'adulte, en fait. Alors que nous, on pense, en tout cas à Jenna, et beaucoup maintenant, on pense qu'en fait, c'est pas du tout une histoire d'adulte, c'est une histoire d'agresseurs et de victimes, en fait. Et les victimes sont aussi des enfants, sont aussi les enfants du couple. Donc à partir de là, maintenant, leur parole, elle a autant de valeur que la parole de n'importe qui. Et puis... dans les violences intrafamiliales, vous avez aussi des violences. Alors, il y a les violences psychologiques, hein, dont parle Anaïs, mais aussi des violences sexuelles faites aux enfants. Et l'inceste, c'est une violence intrafamiliale, c'est un crime. Ça se passe dans les familles.
Quand on est victime de violences intrafamiliales, on est souvent perçu qu'à travers ce prisme-là. Et donc, comment ? Juste, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui en souffre. Et j'aimerais juste leur dire que... Ils ne sont pas le reflet de leurs parents, ce ne sont pas juste des victimes, ce sont avant tout des personnes, et qu'ils arriveront à s'en sortir justement parce que leur vécu ne les définit en rien, quoi.
Voilà, donc c'est un extrait qui retrace un peu la parole d'Anaïs et de Lynn Rodian. Pour le deuxième épisode, Colin, c'est toi, tu as voulu en fait nous parler de la représentation des violences sexistes et sexuelles dans l'art. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, alors c'est un sujet qui est né suite à une pièce que j'avais été voir, qui est le petit musée des horreurs dites ordinaires de Fanchon-Guivic, qu'on a reçu d'ailleurs à l'antenne de Radio Campus. Et de là, je me suis dit, c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses dans l'art qui représentent donc les violences sexistes et sexuelles en tout genre. Là, j'ai opté pour un format un peu particulier, différent de ce que tu avais choisi pour le premier épisode. J'étais partie sur une table ronde où je voulais vraiment avoir l'avis de trois artistes. Donc, on a Mavicana Badinga, qui est metteuse en scène, Karine Vernon, qui est artiste plasticienne, et Fanchon Guivic, du coup, qui est metteuse en scène. Et toutes les trois, elles ont discuté un petit peu de leur manière d'aborder. Elles ont aussi livré quelque chose d'assez intime. Et il y a un extrait, notamment, qui est... particulièrement touchant, où je sais que j'ai été vraiment j'étais derrière les manettes en train d'enregistrer, et je me suis dit waouh, c'est extrêmement puissant ce que dit Mavicana à ce moment-là, et je pense que ça résume tout, et j'ai pas envie d'en dire plus, j'ai envie qu'on écoute cet extrait d'abord.
J'étais dans le métro, et en fait je marchais dans un couloir de métro, et il y a eu un boom, et alors avec le terrorisme, le conditionnement médiatique aussi du terrorisme, forcément, j'ai cru que c'était ma dernière heure. Et en fait, j'ai senti que dans les corps de tout le monde, il y avait eu cette peur intense, et on se regardait, et tu marches, tu te sens pas sécure, t'as envie de sortir, quoi. Et il y avait ce truc de me dire, mais purée, une victime de violence conjugale, elle est dans cet état en permanence, en fait. C'est-à-dire que sa vie est en état de siège permanent. Et que pour un mot de trop, un comportement mal interprété, pour n'importe quelle raison, d'un moment à l'autre, elle peut passer de vie à trépas. Donc elle vit avec la mort, en fait. Et la peur de la mort qui peut arriver à n'importe quel moment. Et en fait, c'est insupportable d'imaginer ça.
Cet état-là, ouais. Et du coup, ce que tu disais aussi, c'est que tu l'as mis en lien, par exemple, avec le terrorisme. Et d'après moi, on parle de la violence faite aux femmes, qui est un des plus grands massacres, un massacre qui existe depuis l'histoire de l'humanité. En fait, on est obligé de le nommer comme ça maintenant. Et moi, je parle de ça parce que intimement, je m'identifie en tant que femme et dans mon histoire intime, il y a quelque chose qui a été agissant et qui, du coup, là, est important d'exprimer pour moi. Mais au-delà de ça, partir de cette violence-là, qui est une violence dans cette ampleur, c'est de toute façon questionner la violence et comment on gère la violence.
Ben voilà, une table ronde qui était extrêmement intéressante. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment enrichissant et ouais, c'était un moment assez dur même à enregistrer.
Oui, et puis même toi, tu me disais quand on est revenu à la rédaction le lendemain, tu me disais que il y a eu des moments où c'était difficile, que en tant que journaliste, on ne sait pas où se positionner. Exact. Quoi faire, etc. Et donc ça prouve aussi que la parole de ces femmes-là et notamment de ces artistes, pour le coup, elle est dure à recevoir, mais elle est importante aussi à transmettre, pour le coup.
Oui, et c'est là où on se dit, waouh, j'ai un super job quand même.
Ça, toujours.
je vous propose qu'on passe au dernier épisode, qui est moins sur le témoignage pour la première partie, puisqu'on avait opté sur l'histoire du militantisme. Mais tu as quand même eu une deuxième partie où tu as interviewé Lucie du planning familial notamment. Et exactement. Je te laisse peut-être présenter un petit peu plus.
Exactement. En fait, le but de cet épisode-là, il a été fait pour le 8 mars. Et en fait, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment parler du militantisme féministe. Et la première partie, donc, comme tu l'as dit, c'est l'interview de Christine Barr, qui est une historienne qui revient sur l'histoire des femmes. Et c'était très pédagogique, c'était super intéressant. Et on a aussi voulu mettre en avant, en fait, des parcours de militantes féministes. Et on a choisi forcément quelque chose de local parce que
c'est notre volonté dans Maintenant on écoute aussi.
Exactement, on a cette volonté-là. On a une première interview de nous toutes 80 et une deuxième, du coup, du planning familial de Lucie. En fait, c'était des questions toutes simples sur pourquoi elle s'engageait, comment elle s'engageait. Et je pense que sa parole est tellement limpide et son engagement est tellement personnel que c'était super intéressant de le mettre et très important. Et je vous laisse avec l'extrait.
Personnellement, en fait, moi, je pense que j'ai pris conscience réelle dans mon corps de l'inégalité entre les hommes et les femmes au moment où j'ai avorté, quand j'avais 18 ans.
D'accord.
Et donc, pour moi, le combat pour l'avortement, c'est un combat qui est lié à mon histoire du féminisme, mon histoire personnelle du féminisme, mais qui au fond est liée aussi à l'histoire du féminisme actuel. La liberté de disposer de son corps et se rendre compte en le vivant concrètement de toutes les inégalités et de toute la souffrance des fois médicale qu'on pouvait vivre avec un mauvais accompagnement, je me suis dit que c'était impossible que d'autres femmes vivent un accompagnement pourri comme je l'avais vécu. Et heureusement, on a plein de récits d'IVG bien accompagnés qui se passent très bien.
Est-ce que si tu l'acceptes, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé justement
à ce
moment-là ?
Du coup, moi, je me suis retrouvée enceinte à 18 ans. J'avais eu très peu d'éducation à la sexualité avant, ce qui fait que j'avais pas forcément les ressources, connaissance des ressources que je pouvais aller chercher, mais je connaissais le nom du planning familial. Donc j'avais été dans en fait un centre de planification familiale. C'est pas l'association du planning familial, mais à l'époque ça s'appelait comme ça. Maintenant c'est un centre de santé sexuelle et c'est là où on va faire les IVG. Donc on a affaire à des soignants. Les soignants, des fois ils sont super, des fois ils sont moins super. Moi je suis tombée sur des moins super. Et par ailleurs j'ai pas été accompagnée ni par ma famille ni par des copines à ce moment-là. Donc j'avais un peu la situation pourrie de l'accompagnement à l'IVG où j'aurais pu très mal le vivre et très mal en avoir un très mauvais souvenir. Or, en fait, pour moi, je ne sais pas si c'est le cas pour beaucoup de femmes, mais pour moi, l'IVG a été une libération dans le sens où je ne voulais absolument pas avoir cette grossesse à cet âge-là. Et quand j'ai pu faire l'IVG, j'ai été terriblement soulagée. Ce qui était difficile, c'est le regard social que j'ai vécu. Et du coup, moi, aujourd'hui, je trouve que c'est essentiel de militer pour que, comme me l'a dit une super médecin par ailleurs après, pour que ce soit juste un événement de la vie d'une personne, un événement de la vie sexuelle. C'est pas forcément un drame, quoi.
Voilà, vous avez du coup écouté trois extraits de nos trois émissions déjà réalisées. On voulait aborder un dernier sujet avant de passer à la prochaine présentation émission bénévole. Et là, je me tourne vers toi, Inès, puisqu'on parle maintenant donc de référent, référente égalité. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et son importance aussi dans une structure, que ce soit dans Radio Campus Amiens ou dans une autre structure ?
Tout à fait. Alors, quand on parle de référent, référente égalité, nous, on a aussi décidé de le raccrocher au référent, référente pour la lutte contre les VHSS. Et donc, c'est un rôle qui est important dans une structure. Et en fait, ça s'inscrit aussi dans une démarche qui va... Enfin, là, on parlait du contenu qu'on produit sur l'antenne, donc sur une émission qui est voilà, consacrée aux violences sexistes et sexuelles. Mais en fait, aussi, la volonté de Radio Campus Amiens, c'est d'aller au-delà de ça, et c'est en fait d'insuffler dans l'équipe salariée, mais aussi auprès des bénévoles, montrer aussi que c'est une thématique qui est importante et qu'il est indispensable de s'en saisir. Et donc, pour mettre en place tout ça, c'est important d'avoir des protocoles, c'est important d'avoir aussi d'affirmer en fait notre position et ce qu'on souhaite faire en fait sur la radio et avec les personnes qui rejoignent l'aventure Radio Campus Amiens. Et donc, c'est quelque chose qui est en construction, mais dans l'idéal, ce serait une personne qui serait la référente ou le référent sur ces thématiques-là pour orienter les personnes sur les sujets de harcèlement, sur les sujets d'égalité entre les genres et toutes ces questions-là. Donc orienter, informer aussi sur le cadre légal, sur ce qui est possible de faire aussi quand on est confronté à une situation de VSS. Et on en parlait tout à l'heure aussi, c'est que quand parfois on accueille le témoignage de victimes ou de personnes qui connaissent des situations terribles, c'est pas toujours évident. Et donc, comment on s'arme pour recevoir ce genre de discours ? Et donc, c'est toutes des questions qu'on se pose à Radio Campus Amiens et qu'on aimerait développer un peu. Et donc, c'est un projet qui va se faire sur les mois à venir. Mais
sur le long terme.
Sur le long terme, tout à fait.
Et même simplement en termes de vocabulaire, moi, je sais que, par exemple, j'ai un atelier avec une association pardon, qui s'appelle Le Mail et c'est des témoignages, encore une fois. Et il y a plusieurs fois, je viens vous voir et je dis, est-ce que, par exemple, je commets un impair si je dis ça et ça ? Et ça, je pense que c'est une démarche qui est importante et qu'on devrait... Comme ce rôle de référent, etc., on devrait pouvoir plébisciter ce rôle et ces idées-là pour faire avancer, en fait, finalement, dans chaque structure, c'est possible.
Et un mot qui n'a pas été cité, mais c'est la sensibilisation, finalement, et c'est vraiment l'objectif aussi, sensibiliser tout le monde, donc les auditeuristes, mais aussi les personnes qui font fonctionner la radio, bénévoles et salariés, et puis toutes les personnes autour, quoi.
Eh bien, je pense que c'est parfait pour conclure. je vous propose de nous donner rendez-vous début avril pour Exactement. Un nouvel épisode. Et de quoi on va parler ?
Eh bien, on a choisi justement de parler un peu plus de nous, en tout cas de notre métier. On a choisi de revenir sur le traitement des violences sexistes et sexuelles dans les médias. Donc ça nous concerne, mais ça concerne tout le monde, tous les citoyens, parce que les médias, c'est fait pour tout le monde, normalement. Et donc voilà, on attend des réponses, des interviews. On espère avoir pas mal de monde.
Restez branchés, parce que voilà, ce sera un épisode très chouette aussi.
Et ce sera pour début avril. Eh bien, merci.
Merci à toi. Merci.
Et on se donne rendez-vous bientôt, du coup.
Exactement.
C'était maintenant, on écoute une émission qui est diffusée. Ah, j'ai perdu mes notes, malheureux.
Elle est diffusée tous les deuxièmes semaines du mois.
Diffusée le deuxième et quatrième lundi du mois à 10h et rediffusion troisième et premier mercredi du mois à 22h.